Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlos de Laclos. Lettre 150. Le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. En attendant le bonheur de te voir, je me livre, ma tendre amie, au plaisir de t'écrire. Et c'est en m'occupant de toi que je charme le regret d'en être éloigné. Te tracer mes sentiments, me rappeler les tiens, est pour mon cœur une vraie jouissance. Et c'est par elle que le temps même des privations m'offre encore mille biens précieux à mon amour. Cependant, s'il faut en croire, je n'obtiendrai point de réponse de toi. Cette lettre même sera la dernière. Et nous nous priverons d'un commerce qui, selon toi, est dangereux et dont nous n'avons pas besoin. Sûrement je t'en croirai si tu persistes. Car que peux-tu vouloir que par cette raison même je ne le veuille aussi? Mais avant de te décider entièrement, ne permettras-tu pas que nous nous en causions ensemble? Sur l'article des dangers, tu dois juger seul. Je ne puis rien calculer et je me tiens à te prier de veiller à ta sûreté, car je ne puis être tranquille quand tu seras inquiète. Pour cet objet, ce n'est pas nous deux qui ne sommes qu'un, c'est toi qui es nous deux. Il n'en est pas de même sur le besoin. Ici, nous ne pouvons avoir qu'une même pensée. Et si nous différons d'avis, ce ne peut être que faute de nous expliquer ou de nous entendre. Voici donc ce que je crois sentir. Sans doute, une lettre paraît bien peu nécessaire quand on peut se voir librement. Que dirait-elle qu'un mot, un regard ou même le silence n'exprimasse 100 fois mieux encore? Cela me paraît si vrai que, dans le moment où tu me parlas de ne plus nous écrire, cette idée glissa facilement sur mon âme. Elle la gêna peut-être, mais ne l'affecta point. Tel à peu près qu'en voulant donner un baiser sur ton cœur, je rencontre un ruban ou une gaze, je l'écarte seulement, et n'ai cependant pas le sentiment d'un obstacle. Mais depuis, nous nous sommes séparés, et dès que tu n'as plus été là, cette idée de l'être est revenue me tourmenter. Pourquoi, me suis-je dit, cette privation de plus? Quoi, pour être éloigné, n'a-t-on plus rien à se dire? Je suppose que, favorisé par les circonstances, on passe ensemble une journée entière. Faudra-t-il prendre le temps de causer sur celui de jouir? Oui, de jouir, ma tendre amie, car auprès de toi, les moments même de repos fournissent encore une jouissance délicieuse. Enfin, quel que soit le temps, on finit par se séparer, et puis on est si seul. C'est alors qu'une lettre est si précieuse. Si on ne la lit pas, du moins on la regarde. Ah, sans doute on peut regarder une lettre sans la lire, comme il me semble que la nuit, j'aurai encore quelque plaisir à toucher ton portrait. Ton portrait, ai-je dit. Mais une lettre est le portrait de l'âme. Elle n'a pas, comme une froide image, cette stagnance si éloignée de l'amour. Elle se prête à tous nos mouvements. Tour à tour, elle s'anime, elle jouit, elle se repose. Tes sentiments me sont tous si précieux. Me priveras-tu d'un moyen de les recueillir? Es-tu donc sûr que le besoin de m'écrire ne te tourmentera jamais? Si dans la solitude, ton cœur se dilate ou s'oppresse, si un mouvement de joie passe jusqu'à ton âme, si une tristesse involontaire vient la troubler un moment, ce ne sera donc pas dans le sein de ton ami que tu répandras ton bonheur ou ta peine? Tu auras donc un sentiment qu'il ne partagera pas? Tu le laisseras donc, rêveur et solitaire, s'égarer loin de toi? Mon ami, ma tendre amie, mais c'est à toi qu'il appartient de prononcer. J'ai voulu discuter seulement et non pas te séduire. Je ne t'ai dit que des raisons. J'ose croire que j'eusse été plus fort par des prières. Je tâcherai donc, si tu persistes, de ne pas m'affliger. Je ferai mes efforts pour me dire ce que tu m'aurais écrit, mais tiens, tu le dirais mieux que moi. Et j'aurai surtout plus de plaisir à l'entendre. Adieu, ma charmante amie. L'heure approche enfin où je pourrai te voir. Je te quitte bien vite pour t'aller retrouver plus tôt.
Dear diary, what is wrong with me? between the lines. Be not afraid, help is on its way. A sentence suspended in
Lettre 151. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Sans doute, marquise, que vous ne me croyez pas assez peu d'usage pour penser que j'ai pu prendre le change sur le tête-à-tête où je vous ai trouvé ce soir, et sur l'étonnant hasard qui avait conduit Danceny chez vous. Ce n'est pas que votre physionomie exercée n'ait su prendre à merveille l'expression du calme et de la sérénité, ni que vous vous soyez trahi par aucune de ces phrases qui quelquefois échappent au trouble ou au repentir. Je conviens même encore que vos regards dociles vous ont parfaitement servi, et que s'ils avaient su se faire croire aussi bien que se faire entendre, loin que j'eusse pris ou conservé le moindre soupçon, je n'aurais pas douté un moment du chagrin extrême que vous causait ce tiers importun. Mais pour ne pas déployer en vain d'aussi grands talents, pour en obtenir le succès que vous vous en promettiez, pour produire enfin l'illusion que vous cherchiez à faire naître, il fallait donc auparavant former votre amant novice avec plus de soin. Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas rougir et se déconcerter à la moindre plaisanterie, à ne pas nier si vivement, pour une seule femme, les mêmes choses dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. Apprenez-leur encore à savoir entendre l'éloge de leur maîtresse, sans se croire obligés d'en faire les honneurs. Et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle, qu'ils sachent au moins auparavant déguiser ce regard de possession, si facile à reconnaître, et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour. Alors vous pourrez les faire paraître dans vos exercices publics, sans que leur conduite fasse tort à leur sage institutrice. Et moi-même, trop heureux de concourir à votre célébrité, je vous promets de faire et de publier les programmes de ce nouveau collège. Mais, jusque-là, je m'étonne, je l'avoue, que ce soit moi que vous ayez entrepris de traiter comme un écolier. Oh, qu'avec toute autre femme, je serais bientôt vengée, que je m'en ferais de plaisir, et qu'il surpasserait aisément celui qu'elle aurait cru me faire perdre. Oui, c'est bien pour vous seul que je peux préférer la réparation à la vengeance. Et ne croyez pas que je sois retenu par le moindre doute, par la moindre incertitude. Je sais tout. Vous êtes à Paris depuis 4 jours, et chaque jour, vous avez vu Danceny, et vous n'avez vu que lui seul. Aujourd'hui même, votre porte était encore fermée. Et il n'a manqué à votre Suisse, pour m'empêcher d'arriver jusqu'à vous, qu'une assurance égale à la vôtre. Cependant, je ne devais pas douter, me mandiez-vous, d'être le premier informé de votre arrivée. De cette arrivée dont vous ne pouviez pas encore me dire le jour, tandis que vous m'écriviez la veille de votre départ. Nierez-vous ces faits, ou tenterez-vous de vous en excuser? L'un et l'autre sont également impossibles, et pourtant je me contiens encore. Reconnaissez là votre empire. Mais croyez-moi, contente de l'avoir éprouvé, n'en abusez pas plus longtemps. Nous nous connaissons tous deux, marquise. Ce mot doit vous suffire. Vous sortez demain toute la journée, m'avez-vous dit. À la bonne heure, si vous sortez en effet, et vous jugez que je le saurai. Mais enfin, vous rentrerez le soir, et pour notre difficile réconciliation, nous n'aurons pas trop de temps jusqu'au lendemain. Faites-moi donc savoir si ce sera chez vous ou là-bas que se feront nos expiations nombreuses et réciproques. Surtout, plus de Danceny. Votre mauvaise tête s'était remplie de son idée. Et je peux n'être pas jaloux de ce délire de votre imagination. Mais songez que de ce moment, ce qui n'était qu'une fantaisie deviendrait une préférence marquée. Je ne me crois pas fait pour cette humiliation, et je ne m'attends pas à la recevoir de vous. J'espère même que ce sacrifice ne vous en paraîtra pas un. Mais quand il vous coûterait quelque chose, il me semble que je vous ai donné un assez bel exemple. Qu'une femme sensible et belle, qui n'existait que pour moi, et qui dans ce moment même meurt peut-être d'amour et de regret, peut bien valoir un jeune écolier, qui, si vous voulez, ne manque ni de figure ni d'esprit, mais qui n'a encore ni usage ni consistance. Adieu, marquise, je ne vous dis rien de mes sentiments pour vous. Tout ce que je puis faire en ce moment, c'est de ne pas scruter mon cœur. J'attends votre réponse. Songez, en la faisant, songez bien que plus il vous est facile de me faire oublier l'offense que vous m'avez faite, plus un refus de votre part, un simple délai, l'aggraverait dans mon cœur en traits ineffaçables. Lettre 152. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Prenez donc garde, vicomte, et ménagez davantage mon extrême timidité. Comment voulez-vous que je supporte l'idée accablante d'encourir votre indignation et surtout que je ne succombe pas à la crainte de votre vengeance? D'autant que, comme vous savez, si vous me faisiez une noirceur, il me serait impossible de vous la rendre. J'aurais beau parler, votre existence n'en serait ni moins brillante, ni moins paisible. Au fait, qu'auriez-vous à redouter? D'être obligé de partir, si on vous en laissait le temps? Mais ne vit-on pas chez l'étranger comme ici? Et à tout prendre, pourvu que la cour de France vous laissât tranquille à celle où vous fixerez, ce ne serait pour vous que changer le lieu de vos triomphes. Après avoir tenté de vous rendre votre sang-froid par ces considérations morales, revenons à nos affaires. Savez-vous, vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée? Ce n'est assurément pas faute d'avoir trouvé assez de partis avantageux. C'est uniquement pour que personne n'ait le droit de trouver à redire à mes actions. Ce n'est même pas que je crains de ne pouvoir plus faire mes volontés, car j'aurais bien toujours fini par là. Mais c'est qu'il m'aurait gêné que quelqu'un eût seulement le droit de s'en plaindre. C'est qu'enfin, je ne voulais tromper que pour mon plaisir, et non par nécessité. Et voilà que vous m'écrivez la lettre la plus maritale qui soit possible de voir. Vous ne m'y parlez que de tort de mon côté et de grâce du vôtre. Mais comment donc peut-on manquer à celui à qui on ne doit rien? Je ne saurais le concevoir. Voyons, de quoi s'agit-il tant? Vous avez trouvé Danceny chez moi et cela vous a déplu, à la bonne heure. Mais qu'avez-vous pu en conclure? Ou que c'était l'effet du hasard, comme je vous le disais, ou celui de ma volonté, comme je ne vous le disais pas. Dans le premier cas, votre lettre est injuste. Dans le second, elle est ridicule. C'était bien la peine d'écrire. Mais vous êtes jaloux, et la jalousie ne raisonne pas. Eh bien, je vais raisonner pour vous. Ou vous avez un rival, ou vous n'en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour lui être préféré. Si vous n'en avez pas, il faut encore plaire pour éviter d'en avoir. Dans tous les cas, c'est la même conduite à tenir. Ainsi, pourquoi vous tourmenter? Pourquoi, surtout, me tourmenter moi-même? Ne savez-vous donc plus être le plus aimable? Et n'êtes-vous plus sûr de vos succès? Allons donc, vicomte, vous vous faites tort? Mais ce n'est pas cela. C'est qu'à vos yeux, je ne vaux pas que vous vous donniez tant de peine. Vous désirez moins mes bontés que vous ne voulez abuser de votre empire. Allez, vous êtes un ingrat. Voilà bien, je crois, du sentiment. Et pour peu que je continuasse, cette lettre pourrait devenir fort tendre. Mais vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas davantage que je me justifie. Pour vous punir de vos soupçons, vous les garderez. Ainsi, sur l'époque de mon retour, comme sur les visites de Danceny, je ne vous dirai rien. Vous vous êtes donné bien de la peine pour vous en instruire, n'est-il pas vrai? Eh bien, en êtes-vous plus avancé? Je souhaite que vous y ayez trouvé beaucoup de plaisir. Quant à moi, cela n'a pas nui au mien. Tout ce que je peux donc répondre à votre menaçante lettre, c'est qu'elle n'a eu ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m'intimider. Et que pour le moment, je suis, on ne peut pas moins, disposé à vous accorder vos demandes. Au vrai, vous accepter tel que vous vous montrez aujourd'hui, ce serait vous faire une infidélité réelle. Ce ne serait pas là renouer avec mon ancien amant. Ce serait en prendre un nouveau, et qui ne vaut pas l'autre, à beaucoup près. Je n'ai pas assez oublié le premier pour m'y tromper ainsi. Le Valmont que j'aimais était charmant. Je veux bien convenir même que je n'ai pas rencontré d'homme plus aimable. Ah, je vous en prie, vicomte, si vous le retrouvez, amenez-le-moi. Celui-là sera toujours bien reçu. Prévenez-le cependant que, dans aucun cas, ce ne serait ni pour aujourd'hui ni pour demain. Son ménechme lui a fait un peu tort, et en me pressant trop, je craindrais de m'y tromper. Ou bien, peut-être ai-je donné parole à Danceny pour ces deux jours-là. Et votre lettre m'a appris que vous ne plaisantiez pas quand on manquait à sa parole. Vous voyez donc qu'il faut attendre. Mais que vous importe, vous vous vengerez toujours bien de votre rival. Il ne fera pas pis à votre maîtresse que vous ferez à la sienne. Et après tout, une femme n'en vaut-elle pas une autre? Ce sont vos principes. Celle même qui serait tendre et sensible, qui n'existerait que pour vous et qui mourrait enfin d'amour et de regret, n'en serait pas moins sacrifiée à la première fantaisie, à la crainte d'être plaisantée un moment. Et vous voulez qu'on se gêne? Cela n'est pas juste. Adieu, vicomte. Redevenez donc aimable. Tenez, je ne demande pas mieux que de vous trouver charmant. Et dès que j'en serai sûre, je m'engage à vous le prouver. En vérité, je suis trop bonne.
You're so chic, do you ever love me? Babies of the mountains, tree line, midnight dew. guess we too got to search for something new.
Lettre 153. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je réponds sur le champ à votre lettre, et je tâcherai d'être clair, ce qui n'est pas facile avec vous quand une fois vous avez pris le parti de ne pas entendre. De longs discours n'étaient pas nécessaires pour établir que chacun de nous, ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, nous avons un égal intérêt à nous ménager mutuellement. Aussi, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais encore entre le parti violent de se perdre et celui, sans doute meilleur, de rester unis comme nous l'avons été, de le devenir davantage encore en reprenant notre première liaison. Entre ces deux parties, dis-je, il y en a mille autres à prendre. Il n'était donc pas ridicule de vous dire, et il ne l'est pas de vous répéter, que de ce jour même, je serai ou votre amant ou votre ennemi. Je sens à merveille que ce choix vous gêne, qu'il vous conviendrait mieux de tergiverser. Et je n'ignore pas que vous n'avez jamais aimé être placé ainsi entre le oui et le non. Mais vous devez sentir aussi que je ne puis vous laisser sortir de ce cercle étroit sans risquer d'être joué. Et vous avez dû prévoir que je ne souffrirai pas. C'est maintenant à vous de décider. Je peux vous laisser le choix, mais non pas rester dans l'incertitude. Je vous préviens seulement que vous ne m'abuserez pas par vos raisonnements, bons ou mauvais, que vous ne me séduirez pas davantage par quelques cajoleries dont vous chercheriez à parer vos refus, et qu'enfin, le moment de la franchise est arrivé. Je ne demande pas mieux que de vous donner l'exemple, et je vous déclare avec plaisir que je préfère la paix et l'union. Mais s'il faut rompre l'une ou l'autre, je crois en avoir le droit et les moyens. J'ajoute donc que le moindre obstacle mis de votre part sera pris de la mienne pour une véritable déclaration de guerre. Vous voyez que la réponse que je vous demande n'exige ni de longues ni belles phrases. Deux mots suffisent. Réponse de la marquise de Merteuil, écrite au bas de la même lettre. Eh bien, la guerre. Lettre 154. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Les bulletins vous instruisent mieux que je ne pourrais le faire, ma chère amie, du fâcheux état de notre malade. Tout entière aux soins que je lui donne, je ne prends sur eux le temps de vous écrire qu'autant qu'il y a d'autres événements que ceux de la maladie. En voici un, auquel certainement je ne m'attendais pas. C'est une lettre que j'ai reçue de Monsieur de Valmont, à qui il a plu de me choisir pour sa confidente, et même pour sa médiatrice auprès de Madame de Tourvel, pour qui il avait aussi joint une lettre à la mienne. J'ai renvoyé l'une en répondant à l'autre. Je vous fais passer cette dernière, et je crois que vous jugerez comme moi que je ne pouvais ni ne devais rien faire de ce qu'il me demande. Quand je l'aurais voulu, notre malheureuse amie n'aurait pas été en état de m'entendre. Son délire est continuel. Mais que direz-vous de ce désespoir de Monsieur de Valmont ? D'abord, faut-il y croire ? Où veut-il seulement tromper tout le monde, et jusqu'à la fin? C'est parce qu'on n'a rien trouvé dans la suite de cette correspondance qui put résoudre ce doute qu'on a pris le parti de supprimer la lettre de M. de Valmont. Si pour cette fois il est sincère, il peut bien dire qu'il a lui-même fait son malheur. Je crois qu'il sera peu content de ma réponse. Mais j'avoue que tout ce qui me fixe sur cette malheureuse aventure me soulève de plus en plus contre son auteur. Adieu, ma chère amie. Je retourne à mes tristes soins, qui le deviennent bien davantage encore par le peu d'espoir que j'ai de les voir réussir. Vous connaissez mes sentiments pour vous.
Ah oui. was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Strange to dance so soon. I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Strange to dance and
myself out.